FM 93. La radio du sport à Québec. Entrevues, analyses, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Pou. L'avant-match, c'est la référence sportive à Québec.
Gallagher qui marque le premier but du match. Weber qui lance un boulet pour marquer le deuxième. Price fait les arrêts. Drouin fait rien, comme d'habitude. Finalement, le Canadien, Claude Julien avait raison, ils sont pas finis. Qu'est-ce qui va se passer ce soir à Philadelphie?
C'est sûr et certain que le Canadien va gagner.
Ah oui? Tu penses que ça va être quoi le pointage?
3-1.
3-1 pour le Canadien. Moi, je vais dire 4-2 pour les Flyers. Ça n'a pas été choisi. Ah, évidemment. Évidemment. Non, mais je veux quand même m'expliquer. Je sais que la foule est encore sur mon dos. Je veux quand même m'expliquer. Je souhaite que le Canadien gagne. Mais je pense que les Flyers vont avoir plus faim que le Canadien ce soir à Philadelphie.
Ce match est crucial. Canadien Flyers, c'est parti. Le Canadien menace maintenant. Un tir de la pointe de fond est bloqué devant. Gallagher le retrouve. Bon! Brendan Gallagher! Et le Canadien marque le premier but du match. Les points de gauche passent à la ligne. Le tir de Weber est court!
Shea Weber.
Et c'est 2-0, le Canadien. La rondelle s'est frayée un chemin au travers plusieurs joueurs et a déjoué Hart entre les jambes. J'y vois Beauportant est court ensuite Couturier. Et c'est 2-1. En avantage numérique, les Flyers brisent la glace. Ça arrive à qui tire dans la mitaine de Price et c'est comme ça que ça se termine. Le Canadien remporte la victoire. La marque finale ce soir à Philadelphie, le Canadien l'emporte 3-1 sur les Flyers et va chercher 2 points supplémentaires.
On n'est pas fini ici.
Si ça finit 3-1 Montréal, tu vas être déçu de pas aller au Saint-Hubert?
Ouais.
OK.
Vous écoutez l'avant-match au FM 93 avec Dan Pou.
Un autre très bon montage du collègue Will. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2064. J'espère que vous allez bien. Le Canadien a gagné un gros match hier. Et sincèrement, on a eu des rebondissements même dans le Dan Pool. Il y a un auditeur, le premier à qui on a parlé, je pense, a changé d'idée. Le premier ou le deuxième, il s'en allait nous donner 3-1 Montréal. Il a changé d'idée puis il a pris les Flyers. On va écouter ce que ça donne dans les prochains instants, mais sincèrement, puis on va s'entretenir avec Simon Gagné dans quelques minutes, comme on le fait chaque mercredi dans l'avant-match. Le Canadien a bien joué hier. Mais vous savez, des fois, on analyse un match de hockey, puis on dit, ouais, ils ont bien joué, mais l'autre équipe a mal joué, ou pourquoi ça s'est terminé de cette façon-là? C'est un mélange des deux. Mais hier, au-delà de la belle performance du Canadien, je note aussi le match catastrophique des Flyers. Une équipe qui, à domicile, avait la chance de rester dans le portrait des séries. Une équipe sans âme, les Flyers. Exactement comme le match qu'ils avaient joué il y a à peu près un mois contre le Canadien. Sincèrement, les Flyers, hier, ils m'ont pas déçu, ils m'ont amèrement déçu. Mais bonne nouvelle, le Canadien, on aime bien mieux que le Canadien participe aux séries. Et là, le Canadien se retrouve à 1 point des séries. Pourquoi? Parce que les Blue Jackets sont perdus en temps régulier à Calgary hier soir. 4-2. Pendant ce temps-là, les Hurricanes continuaient d'impressionner tout le monde en l'emportant en tir de barrage contre les Penguins de Pittsburgh. Peter Mrazek a bloqué tour à tour Kessel, Crosby et Gunzel dans cette période de tir de barrage. C'est quand même assez impressionnant, merci. C'est la folie du basketball universitaire américain qui va débuter demain. On va en parler plus tard dans l'émission. Je vais m'entretenir également avec Lucian Buté qui a annoncé sa retraite aujourd'hui à Montréal. Mais juste avant d'aller parler avec Simon Gagné, on écoute un résumé de ce fameux Dan Pool d'hier où on pensait pas faire un gagnant, mais finalement, on a fait un gagnant. Salut Stéphane.
Salut Dan.
Ça va bien?
Oui, toi?
Ben oui, ça va bien, merci.
Bon. Au début, j'étais pour te dire 3-1 Montréal.
Ouais.
Mais là, je trouve que c'est un test à soir pour le coach. Fait que d'après moi, ça va te choquer. Fait 4-1 Flyers.
4-1, tu changes d'idée?
Ouais.
Mais ça finit 3-1 Montréal, tu vas être déçu de ne pas aller au Saint-Hubert?
Ouais.
OK, 4-1 Philadelphie, c'est ça, faut que je note, là.
Ça.
OK, merci à toi.
Merci, Dan.
Bonne soirée. Il a changé d'idée pareil, là. Et on termine le Dan Pool de ce soir avec Sébastien. Salut, Sébastien.
Hey, salut, Dan, ça va?
Ça va bien, toi?
Ouais, ça va super bien.
Qu'est-ce qui va se passer ce soir à Philadelphie?
Moi, je pense que. Pas je pense, c'est sûr et certain que le Canadien va gagner.
Ah oui?
Oh, un grand fan.
Ah, t'es un grand
pas
fan.
Le
OK, t'as pas perdu
le choix. Non, pas
OK. Puis, tu penses que ça va être quoi le pointage?
3-1.
3-1 pour le Canadien.
3-1 Montréal, ouais.
OK. Parfait, j'ai pris ça en note. Un gros merci.
Yes, merci à toi.
Sébastien dit 3-1 Montréal.
L'avant-match. Voici Simon Gagné.
Salut Simon, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Dan?
Oui, j'ai une pensée pour toi hier. Canadiens qui affrontaient les Flyers. Les Flyers sont pas sortis. J'ai été déçu des Flyers. Puis je veux pas discréditer le Canadien puis dire que le Canadien n'a pas joué un bon match. Mais je m'en voulais après le match d'avoir cru que les Flyers pouvaient gagner ce match-là parce qu'ils avaient battu Pittsburgh en prolongation à 3 secondes de la fin de la prolongation. Les Flyers, hier, ressemblaient aux Flyers d'il y a à peu près un mois quand le Canadien les avait pas écrasés, mais vraiment battus, sans que Philadelphie montre un signe d'une équipe en urgence de vouloir faire les séries.
Ouais, seulement la moitié de la troisième période, là, t'as vu que les Flyers ont essayé de pousser un peu là, pour égaliser le match, puis eux autres, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment le choix de gagner quasiment en temps régulier, là, réglementaire, pour se donner une chance. Fait que tu les as vu pousser les 10 dernières minutes de la partie, mais comme toi, j'ai été déçu là, de la façon qu'ils ont sorti avec pas d'énergie. Puis tu sais, c'était le Canadien a bien joué, tu sais, le Canadien a joué un match plate, si on peut dire, un match sur la route, pas trop faire, marquer le premier but, Carey Price a fait les gros arrêts. C'était un match plate à regarder, si on peut dire, mais le Canadien regarde, ils ont fait qu'est-ce qu'il y avait à faire, ils sont allés à Philadelphie, ils sont allés chercher leurs 2 points. Puis du côté des Flyers, j'ai été déçu d'une couple de joueurs, dont un là que oui, faut faire attention, il a seulement 19 ans, mais le jeune Nolan Patrick va falloir qu'il se regarde dans le miroir. T'sais, on dit que c'est rendu une ligue de jeunes, puis il a 19 ans, il y a pas d'excuse, ça fait 2 ans qu'il est dans la ligue, puis il me fait penser, en tout cas, je sais pas, c'est un gros bonhomme, mais tu sais, il manque d'énergie, il manque de vitesse. T'sais, c'est un deuxième overall, puis les Flyers comptent beaucoup sur lui. Puis hier, ça a été un joueur vraiment absent du côté des Flyers, puis c'est pas le seul là, non plus. Là. C'est juste un, je trouve que hier, là, il m'a vraiment déçu.
Simon, Carey Price a pas volé le match hier, il a bien gardé les buts, il garde bien les buts, honnêtement, depuis Noël, c'est quand même très bon son affaire. Il a peut-être eu 2-3 mauvais matchs, mais dans une lutte aux séries où il reste 10 matchs pour à peu près toutes les équipes, ça doit être rassurant, pareil, d'avoir un Price devant le filet?
Ben oui, je te le dis souvent, ça part de la défensive, puis ça part avec ton gardien. Je me répète souvent que c'est beaucoup de pression pour un gardien de but, puis des fois, on est difficile envers les gardiens de but, mais ça part de là. Si ton gardien de but est moindrement bon ou excellent, t'as quasiment une chance de gagner à tous les matchs. Puis, tu sais, Carey Price, comme tu as dit, il n'a rien fait d'extraordinaire hier, mais à toutes les fois que les Flyers faisaient un lancer, il avait l'air confiant, il arrêtait ça comme si c'était un lancer de Pee-Wee, là, avec sa mitte. Fait que, tu sais, c'était tu voyais qu'il était en confiance, puis à partir de là, ben, les défenseurs jouent en confiance, les joueurs d'avant jouent en confiance, puis on sait, le hockey, c'est un jeu d'erreur, tu sais. Et si tu t'embarques sur la glace puis tu as peur de faire des erreurs, ça ira pas bien. Faut que tu es là puis tu aies confiance d'essayer des choses de temps en temps. Puis tu le sais que tu vas avoir tes défenseurs puis tu vas avoir ton gardien qui est hot aussi. Puis c'est la même chose du côté des défenseurs. Des fois, ils hésitent à te pincher dans la zone offensive ou des fois, ils ont peur, ils reculent. Mais des fois, juste le fait d'avoir pinché, ben ça laisse la rondelle dans la zone offensive puis ça te donne une chance de marquer. Fait que quand tu sais que ton goaler est là, ben tu penses pas trop à ça, fait que ça te permet de jouer librement puis de prendre peut-être un petit peu plus de chance que si t'es un gardien que t'es pas certain, ben là tu joues vraiment défensif puis si tu joues comme ça, ben les chances de marquer t'en auras pas beaucoup. Là.
Simon, l'attaquant le moins utilisé des 4 trios de Claude Julien hier, ça a été Jonathan Drouin. C'est quoi la façon pour Drouin de sortir de sa léthargie?
Hey, c'est une bonne question. Écoute, pourtant, c'est un joueur, je trouve, qui avait une bonne saison. Mais là, dernièrement, depuis les 15 derniers matchs, c'est difficile pour Jonathan. Peut-être qu'il essaie d'en faire un petit peu trop. Peut-être trop de fantaisie aussi. Tu sais, des fois, quand tu te cherches en tant que joueur de hockey, surtout offensif, qu'il y a des skills, puis ça marche pas, t'es pas capable de marquer des buts, t'es pas capable d'aller chercher des points, faut t'essayer d'apporter d'autres choses. Puis, tu sais, moi, je trouve que la façon de le faire le plus facile, c'est de garder ça simple, pas garder la rondelle trop longtemps. T'sais, des fois, quand t'es pas en confiance, il faut pas que tu essaies de garder la rondelle trop longtemps. C'est de faire des passes ou garder ça simple par la bande, mets ça dans le fond, fais un bon forecheck, joue bien défensivement, puis par la suite, ben les choses offensives, l'offensive va revenir. Puis mais du côté de Jonathan, c'est très difficile présentement. Puis lui donner peut-être une chance, c'est... En tout cas, c'est difficile peut-être pour un entraîneur de d'entendre qu'est-ce que je vais dire, mais tu sais, de le mettre avec des meilleurs joueurs aussi, là, tu sais, mais je peux comprendre Claude Julien que Jonathan doit en donner plus puis doit mériter de jouer avec des meilleurs joueurs s'il veut jouer sur un premier ou deuxième trio, là.
OK. Zdeno Chara a eu 42 ans lundi. Tu l'as côtoyé à la fin de ta carrière avec les Bruins. Ce gars-là m'a impressionné toute sa carrière. Hier, il s'est battu contre Matt Martin des Islanders. On l'a pas vu souvent engager le combat dans les dernières années. On se disait, il a ralenti, il est rendu plus vieux, puis ça étante moins. Mais là, je pense que c'était son deuxième combat en deux semaines. Zdeno Chara, je trouve, puis je vais te parler plus tard dans l'entretien du sondage de l'Association des joueurs qui a posé des questions sur les différents joueurs de la Ligue. C'est qui le meilleur, puis c'est qui le meilleur défenseur, puis le meilleur lancer et tout. Je trouve ça intéressant comme résultat. Mais Zdeno Chara, je trouve qu'il est sous-estimé. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de lui, mais même à 42 ans, il est encore très important pour les Bruins.
Oui, et puis tu sais, je suis persuadé que s'il veut revenir l'année prochaine, pour lui, c'est dans son esprit, c'est seulement avec les Bruins de Boston. Puis du côté des Bruins de Boston, je pense que t'as deux leaders dans cette équipe-là, c'est Chara puis Bergeron, puis juste sa présence dans la chambre, juste le fait qu'il soit là jour après jour, le montrer aux jeunes c'est quoi être un professionnel en dehors de la glace, c'est quoi qu'il faut faire. Lorsque c'est pas des jours de match, il est tout le temps dans le gym, il fait tout le temps attention à qu'est-ce qu'il mange. C'est rien c'est rien de qu'est-ce que tu vois sur la glace, mais c'est vraiment gros pour une équipe, pour une organisation. Puis oui, on trouve qu'il a ralenti, mais il a jamais été un défenseur rapide. Oui, non. Il a ralenti, je suis d'accord avec toi, mais il travaille tellement fort pour aller chercher peut-être la petite fraction de seconde qu'il a ratée durant l'été ou dans le gym, durant les journées de congé pour essayer de trouver une façon d'être aussi vite qu'avant. Puis mais il y a tellement un long hockey, Dan. Oui. Des fois, t'as l'impression que tu l'as débordé, puis ça fait longtemps qu'il est plus là, puis il arrive avec son hockey de 8 pieds, là, puis il t'enlève la rondelle juste à la fin. Fait que c'est vraiment frustrant. Puis il est encore dans un coin, là. Tu sais, quand tu vas dans un coin avec, là, garde la tête haute, là, ça va faire mal. Là, c'est un gros bonhomme, là. Puis des fois, je m'en rappelle, là, peut-être. Ben, il est aussi gros, il est aussi fort. Là, quand t'arrives pour aller le frapper, là, ça fait mal. Puis j'ai pas vu le combat là, hier, mais Martin, c'est un tough. Là, c'est un tough dans la ligue.
Ah, puis, c'est Chara qui a gagné.
Chara qui a gagné. C'est ça que j'allais dire. Chara, là, n'importe quel tough dans la ligue, là, il est capable d'y prendre. Là, puis il est capable de très bien faire, puis même peut-être gagner le combat. Fait que, tu sais, c'est une présence dans une équipe là, que oui, peut-être c'est plus le même défenseur, mais il t'apporte tellement d'autres choses alentour, puis il est encore capable de faire des bonnes choses sur la glace. Moi, c'est un défenseur le temps aussi longtemps qu'il veut veut jouer. Puis
aussi.
Je pense que les Bruins de Boston vont le garder aussi l'année prochaine.
Puis Simon, c'est pas un gars chien quand tu vas dans le coin avec. Moi, il m'apparaît pas à être salaud. Pourtant, avec la shape qu'il a, il pourrait l'être.
Bon, il pourrait l'être. C'est un gars qui est très respectueux. Il va aller dans le coin des fois, là, puis il sait qu'il est tellement gros, tellement fort que tu sais, il va ralentir afin de faire sa mise en échec pour pas te blesser, là, tu sais. Fait que, mais s'il veut, là, des fois, il y a quelqu'un qui le pique un peu, là, il devient malin, là. On va l'appeler quasiment comme Hulk, là.
Fait que,
il peut être un peu plus chien s'il veut.
OK. L'Association des joueurs a demandé à ses joueurs des questions sur différents domaines de la Ligue nationale de hockey. Avant que je te raconte les résultats qui me surprennent ou que tu me donnes ton opinion sur certains résultats, est-ce que ça fait jaser ce genre de sondage-là dans les vestiaires des équipes?
Ben oui, je pense que oui, un petit peu. À chaque année, là, on reçoit les feuilles, puis souvent, là, lorsqu'on part sur la route quelques jours, le joueur qui s'occupe le représentant des joueurs de l'équipe arrive avec les feuilles, puis il nous donne ça dans l'avion, puis on est la gang ensemble, puis on est deux, trois gars, puis on se dit nos réponses, des choses comme ça. Fait que oui, ça fait jaser, puis après ça, ben c'est sûr, on a hâte de voir les résultats, qu'est-ce qui va en être, puis c'est juste que t'espères d'être du bon côté des questions qui ont du sens, parce qu'il y a des questions là, que tu es comme le joueur le plus sous-estimé, là, puis ton nom là-dedans, ça doit pas être trop le fun à savoir là, non plus. Là.
Ouais, mais en même temps, sous-estimé, ça sous-entend que les gens te reconnaissent pas à ta juste valeur, c'est pas si pire.
Ouais, sous-estimé, excuse-moi, je me trompe.
Surestimé, tu veux pas. Ouais, ouais, ok.
Non, sous-estimé, c'est bon. Sous-estimé, ouais. C'est bon parce que c'est ça, c'est une bonne chose.
Ouais.
Surévaluer, là.
Non,
surévaluer,
je comprends.
Là, que,
ouais.
Ça doit être moins drôle là, quand tu vois ton nom sur cette liste-là. Là.
OK, au niveau des skills, on a demandé aux gens c'est qui le meilleur attaquant. 63% Connor McDavid, 17 Crosby,
ah, ouais.
4 MacKinnon et 3,7 pour Kucherov. Il y a quand même un bon écart entre McDavid et Crosby. Le meilleur défenseur de la Ligue, selon toi, selon les joueurs de la Ligue nationale, c'est l'Association des joueurs de la Ligue qui publie ça aujourd'hui. Je te donne les trois premiers, tu me diras qu'est-ce que tu penses qui est revenu le plus dans les résultats. Doughty, Edmund, puis Burns. Tu penses que les gars ont dit que c'était qui le meilleur?
Je vais y aller avec Doughty.
Doughty est deuxième. 31,7 pour Edmund, 20,9 pour Doughty, puis 10,6 pour Burns.
OK. Ben, moi, c'est sûr, ça aurait été Edmund, mon okay. choix. Là, ça fait du sens. Mais les gars respectent beaucoup les vétérans dans ces choix-là. Puis c'est pour ça que je suis allé du côté de Doughty, puis qu'il a gagné deux coupes cette année, puis tout
comprends.
Ça.
30% on dit que le meilleur gardien, c'est Carey Price. 30%, 17% Pécoriné. 17,3 Riné, 17,1 Vasilevski, Marc-André Fleury, quatrième avec 6,5%.
Bon, ça a du sens. Ça a du sens. Comme je te dis, les gars respectent beaucoup ce que les gars ont fait dans le passé. Puis, c'est ça, il y a beaucoup de respect de ce côté-là, du côté des joueurs.
Qui est le joueur le plus difficile à jouer contre? On entend ça souvent. Hein? Ouais, quand tu joues contre lui, c'est du tough. C'est Connor McDavid à 31%, Sidney Crosby 16%, puis Patrice Bergeron 9%.
OK. Ouais, tu sais, c'est des joueurs d'avant. Tu sais, moi, la question, j'aurais tout de suite essayé de trouver un défenseur.
OK.
Mais c'est sûr que maintenant, peut-être dans le hockey de nos jours, les joueurs d'avant sont aussi bons offensivement que défensivement. Mais moi, j'aurais cherché un. C'est une question que je me fais souvent poser. C'est qui le joueur contre qui tu avais de la misère à jouer, qui c'était tough,
ouais.
Et tout ça. Puis c'est difficile à répondre. T'en as tellement plusieurs, mais moi, dans ma tête, c'est tout de suite un défenseur. Tu sais, c'est pas des joueurs d'avant, mais. Écoute, t'as des défenseurs aussi qui répondent à ces questions-là. Puis j'imagine que quand tu vois McDavid arriver à 100 000 à l'heure avec les skills qu'il a, puis la rondelle, puis t'es de reculons, là, ça doit être assez épeurant.
Je termine avec ça. Avec quel joueur tu voudrais débuter une franchise?
Bonne question, ça.
McDavid, 60. Crosby, 18,5. Austin Matthews, 4,3. Patrice Bergeron, 1,7. Puis Nathan MacKinnon, 1,4.
OK. Je trouve ça déçu de la première position. Est-ce que les joueurs ont vu ça de la façon que c'est avec le joueur qui est rendu aujourd'hui, en date d'aujourd'hui?
Ouais.
Ou c'est vraiment tu sais, tu regardes Crosby, tout ce qu'il a fait, un gagnant, puis tout
ouais.
ça, moi s'arrêter. Je commence avec un Sidney Crosby et non un McDavid. Mais peut-être les joueurs voyaient ça d'une autre manière que
mettons,
c'est
ouais.
en date d'aujourd'hui.
Ouais,
c'est ça. Là, fait que...
OK. Hey, les Barons, comment ça va avant de te laisser? C'est rendu les séries, là?
Ben oui, la saison a terminé la fin de semaine passée, puis on commence les séries ce soir à l'Arpidrome à 7h contre les gouverneurs de Sainte-Foy. Fait qu'on a un gros match dans quelques minutes. Puis ça marche en trois pôles, ils ont divisé ça. Fait qu'on joue contre les gouverneurs puis une équipe de Québec. Là, on joue deux fois contre. Puis la première position va passer en quart de finale. Mais il y a une chance pour un meilleur deuxième là, de tous les pôles là, pour passer. Fait qu'on va y aller un match à la fois parce que les gouverneurs ont vraiment une très, très bonne équipe. Là, c'est les séries. C'est une autre saison.
Ouais, c'est ça. Parfait. Merci, Simon.
Ça fait plaisir, Dan. Merci.
Bonne soirée. Au retour de la pause, je m'entretiens avec Lucian Buté qui a annoncé aujourd'hui sa retraite. Et vous savez quoi? Les Canadiens sont encore en vie.
On n'est pas fini ici.
Avant chaque match, à Québec, on écoute Dan Pou au FM 93.
Vous écoutez l'avant-match.
L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Nous sommes heureux de vous annoncer en primeur que la nouvelle Mazda 3 2019 est enfin arrivée chez vos concessionnaires Mazda. Pour la toute première fois de son histoire, la Mazda 3 sera offerte avec la traction intégrale iActive, une perle rare dans ce segment de véhicule. La Mazda 3 vous offre plus de confiance sur la route, quelles que soient les conditions. Rendez-vous chez votre concessionnaire Mazda pour faire l'essai de la toute nouvelle Mazda 3 2019. Détails sur Mazda.ca.
Les inondations sont de plus en plus fréquentes au Québec. Êtes-vous prêt à y faire face? Vérifiez si votre domicile est situé dans une zone inondable. Surveillez la crue des eaux. Respectez les consignes de sécurité diffusées par votre municipalité. Vous informer, c'est votre responsabilité. Pour savoir comment vous préparer, consultez québec.ca/inondation. Un message du gouvernement du Québec.
Avant d'apercevoir les premières hirondelles, attendez-vous de voir un autre signe avant-coureur du printemps chez la Tulipe. Des centaines de chemises à carreaux. Il y en a pour tous les goûts et de tous les styles. Avec ou sans doublure, cintrée, colorée, avec style et panache. Dans les grandes marques pour femmes comme pour hommes. L'événement Chemises à carreaux La Tulipe vous propose le plus grand inventaire de chemises, vestes et manteaux à carreaux dans l'Est du Canada. Rendez-vous dans vos deux magasins de Québec et Lévis et à latulipe.com et passez en mode Caro.
Ça vous tente de voir de la vraie magie?
Alors appelez au 1-800-GOT-JUNG tout de suite
et vous en reviendrez pas.
Dites bye-bye à tout ce qui encombre votre maison ou votre bureau.
Bye-bye.
Tout ce que vous avez à faire, c'est de pointer.
Appelez-nous.
On va arriver.
Dans notre camion qui brille.
Et nos uniformes colorés.
Alors, prête à faire disparaître votre junk? Pointez là.
Disparu!
On est vraiment bon là-dedans.
Il suffit de pointer et ça disparaît.
Appelez au 1-800-GOT-JUNG
ou visitez le 1-800-GOT-JUNG.com.
Solaris Québec, portes et fenêtres. Sylvain, quand on veut changer nos portes et fenêtres, on veut deux choses. Lesquelles?
Ben, payer moins cher.
Oui, et?
Et que ce soit fait aussitôt que le soleil sort.
Exactement. Deux bonnes raisons d'aller chez Solaris maintenant.
C'est vrai, chez Solaris, on achète direct du manufacturier. Comme il n'y a pas d'intermédiaire, c'est moins cher.
Oui, et il faut y aller maintenant pour réserver notre date d'installation pour le printemps.
Et pour profiter de Rénovaire qui se termine le 31 mars.
Solaris Québec, portes et fenêtres. Au 710 rue Bouvier.
La cuisine de vos rêves pourrait vous faire gagner le voyage de vos rêves grâce à Orléans Cuisine Design. Allez visiter la salle de montre d'Orléans Cuisine Design, faites-le plein d'idées et créez avec l'aide de leurs designers la cuisine de vos rêves. Du même coup, en plus de vous ajouter aux 10 000 clients déjà satisfaits par Orléans Cuisine Design, vous devenez finaliste pour remporter un crédit voyage de 3 000 $ pour la cuisine et la salle de bain de vos rêves. Orléans Cuisine Design. Visitez armoireorléans.com.
À Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair, vos trois concessionnaires de la Force Kia célèbrent leurs 20 ans avec le Sportage à 25,695 ou le Sorento à 27,995. Et on rachète votre bail. Avec tous les prix remportés, c'est le temps de changer chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
En tout cas, moi, guérir du surendettement, ça a vraiment fait du bien à mon couple.
Découvrez l'effet Raymond Chabot. Prenez rendez-vous en ligne ou faites le 1-855-R-CHABOT. Raymond Chabot, conseiller en redressement financier. Les tarifs des syndics autorisés en insolvabilité sont régis par la loi.
Rêvez, vous dites? C'est l'événement à faire rêver chez Honda de Giro. Le CR-V 2019 en location 24 mois à partir de 0,99%. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi.
L'avant-match. C'est le sport local, provincial, national, international, interplanétaire. Sous toutes ses facettes.
Dans le coin rouge, the red corner. A perfect professional record consisting of 24 fights. Originally from Galați, Romania. Now, living and fighting out of Montreal, Quebec, Canada. The reigning, defending, undefeated IBF super middleweight champion du monde, Lucien Boutin.
On l'a appris hier. Lucien Buté, boxeur professionnel qui annonce sa retraite. Ça s'est fait aujourd'hui à Montréal. On joint à l'instant en ligne Lucien Buté qui nous attend. Bonsoir, Lucien.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va super bien, merci beaucoup.
Une grosse journée pour vous aujourd'hui?
Oui, très, très grosse journée.
Pourquoi annoncer Lucian sa retraite un 20 mars alors que le dernier combat, ça s'est fait en février 2017?
Écoute, j'ai pris mon temps comme il faut pour réfléchir. Tout de suite après mon dernier combat, une semaine après, ma femme accouchait, j'ai eu ma petite-fille.
OK.
Puis ça m'a fait rester beaucoup à la maison avec ma famille, ma petite-fille, passer du temps, puis réfléchir comme il faut, qu'est-ce que je vais faire pour le futur. Puis la décision est prise, ça fait un an, plus qu'un an que j'ai pris la décision pour arrêter la boxe.
OK.
Mais je n'ai pas l'annoncé officiellement. Ça devrait être l'année passée, au mois de décembre. Mais à cause de l'accident que Stevenson a souffert à son combat,
oui,
j'ai rapporté ça. Par respect pour tout ce qu'il a fait pour la boxe, c'était pas vraiment
approprié
pour faire ça.
Okay.
Puis j'ai laissé le temps pour que le temps que ça passe. Puis j'ai décidé qu'aujourd'hui, avec mon promoteur, avec Interbox, avec Yvon Michel, avec Jean Bédard, on a décidé que c'est le moment de faire cette annonce-là, que tout le monde va savoir exactement.
Parfait. Les gens du Québec vous aiment beaucoup et je pense que vous aimez beaucoup les gens du Québec. Comment vous expliquez cette belle relation que vous avez réussi à créer, Lucian?
Écoute, oui, pour moi, c'était une expérience extraordinaire. Tous les moments, les bons moments que j'ai vécu ici, depuis quand j'ai arrivé au Québec, c'était une chimie extraordinaire qui ça créait entre moi et mes fans depuis le début. À partir de mon premier combat, quand je l'ai fait en 2003, c'était ici au Centre Bell qui est devenu plus tard de... comme chez moi, c'était ma maison. Tous mes plus beaux combats se sont déroulés ici. Mais le monde y a tombé tout de suite en amour avec ma personne, avec oui, mon style de boxe, avec tout ce que ça dit Lucian Bouté. Puis j'ai appris le français. Pour moi, c'était un plus parce que quand j'arrivais ici, je ne parlais pas français ni anglais. Puis j'ai décidé, en 2003, oui, c'était madame, une journaliste qui est venue après mon deuxième combat faire une interview avec moi, commencer à poser des questions en français. Puis j'ai regardé Stéphane Larouche, qui était mon entraîneur, en disant, lever les mains, puis en disant, réponds pour moi, dis quelque chose pour moi. Parce que je me suis senti tellement gêné de cette situation-là que le lendemain, j'ai décidé d'aller à l'école. J'étais à l'école à l'Université de Montréal pour six mois pour apprendre le français. J'ai continué à m'entraîner chaque jour, deux fois par jour, six jours semaine, et le soir de 6 à 10, j'étais à l'école. Puis j'ai appris le français, puis c'était un plus pour moi. Le monde, la façon que je le répondais en français, que j'ai commencé à apprendre la langue que tout le monde parle ici, il a apprécié beaucoup. Puis comme je l'ai dit, ma personne, mon style de boxe, mon talent, c'était tout un cumul que le monde y a tombé en amour avec moi, puis ils sont venus à grand nombre pour m'encourager.
Absolument. De 23 à 37 ans, Lucian, votre vie, ça a été la boxe. Vous avez été boxeur professionnel. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a des moments dans cette période-là où vous vous êtes remis en question?
Pas du tout. Pas du tout. J'ai passé les plus beaux moments de ma carrière ici, au Québec, à Montréal, pendant quand j'étais champion, pendant 5 ans quand je suis devenu champion du monde.
Oui.
C'est les plus beaux moments de ma carrière quand j'ai boxé ici au Centre Bell, quand le Centre Bell était plein. Même à Québec, les combats que j'ai fait, toutes mes 9 défenses de ma ceinture, le Centre Bell était plein. Il y avait toujours 12, 13, 15 000 personnes qui sont venues. Puis, cet aspect-là, ça m'a fait très heureux, puis très content pour tout ce que j'ai amené pour la boxe, pour tout ce que j'ai fait pour la boxe québécoise.
OK, expliquez à nos auditeurs ce soir, on vous a connu, on vous a aimé, mais on ne connaît pas tant que ça votre histoire. Vous arrivez de la Roumanie à quel âge? Et quand vous arrivez à Montréal, est-ce que c'est dans le but de devenir boxeur?
Oui, c'est drôle. Je vous explique tout de suite comment ça arrivait. C'était en 2003 que je suis arrivé pour la première fois ici au Québec comme partenaire d'entraînement pour Eric Lucas.
OK.
Il était en train de se battre pour son championnat du monde WBC avec Markus Baer en Allemagne.
Oui.
Puis on a fait du sparring ensemble. J'étais gaucher, Markus Baer était gaucher aussi.
Parfait.
Puis il s'est servi de moi comme partenaire d'entraînement. Puis après quelques séances, plusieurs séances de sparring qu'on a fait, Eric Lucas a parlé avec Stéphane qui était son entraîneur à ce moment-là, puis Yvon Michel qui était le président de Interbox aussi à ce moment-là. Il a dit, signez ce gars-là, ces gens-là, il est très bon et c'est un futur champion du monde. C'est Eric Lucas qui a dit ça en 2003. J'arrivais ici, je faisais quelques séances de sparring, puis tout de suite, Yvon Michel m'a offert un contrat. J'ai signé avec Interbox, puis c'est ça que j'ai commencé mon carrière ici comme boxeur professionnel.
Est-ce que vous êtes encore ami avec Eric Lucas?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'est parce que ouais. c'est lui qui a vu en vous un potentiel, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est lui qui a parlé avec Yvon Michel, qui était comme le président, puis avec Stéphane Larouche, puis en disant signer ces gens-là, ça va être un futur champion. Puis honnêtement, ça m'est resté dans ma tête ces mots-là, champion du monde. J'ai mis dans ma tête mon rêve, c'est qu'un jour je vais être champion du monde. Exactement 4 ans plus tard, depuis quand j'ai débuté en 2003,
oui.
En 2007, en mois de octobre, 19 octobre, je me suis battu avec la ceinture IBF sur la table avec Alessandro Berio qui était champion. Je l'ai défendu, je l'ai knocké aussi au 11e round. C'était toute une soirée spectaculaire, exceptionnelle que j'ai passée avec mes fans, avec tout le monde qui était présent ici.
Est-ce que Lucian, cette soirée-là, c'est le plus beau moment de votre carrière?
Une des plus beaux. Il y a plusieurs moments, mais ça, c'est une des plus beaux parce que c'était pour la première fois quand j'ai boxé, j'ai eu la chance de me battre pour une ceinture de champion du monde, puis je l'ai gagné. C'est une des plus beaux moments que j'ai vécu en ma carrière.
Est-ce que le pire moment de votre carrière, c'est la défaite contre Carl Froch en Angleterre?
Oui, c'est le pire moment, oui. C'est la décision que j'ai appris en ce moment-là d'aller là-bas. C'était la pire expérience que j'ai vécue. Puis, j'ai pas de regrets. Je l'ai accepté quand même. Puis, même les gens du Québec, même mes fans, même après cette mauvaise expérience en Angleterre, ils ont continué à m'encourager, à continuer à me supporter, à continuer de devenir un grand homme à mes combats. Puis, me donner d'espoir, de courage pour continuer.
Mais j'imagine qu'il y a eu beaucoup de critiques à votre endroit après ce combat-là. Est-ce que ça a été difficile de vivre pour une première fois au Québec au moment où vous avez été critiqué alors que vous étiez toujours adulé et adoré?
Non, c'était pas mal parce que ça fait partie de la boxe, les défaites aussi.
Okay.
Ça fait partie, je l'ai accepté. J'avais rien à me reprocher. Ça fait partie du sport, je l'ai accepté, j'ai passé sur le moment, puis j'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à croire que un jour je vais redevenir champion du monde. J'ai eu ces chances-là encore 2 fois, en 2 reprises avec James DeGale, puis Badou Jack.
Oui.
Malheureusement, j'ai pas réussi à gagner. J'ai fait des bons combats sur le ring, je pense, puis des bons souvenirs. À toute ma carrière, j'ai eu 13 combats de championnat du monde. C'est quelque chose. Je suis content, je suis fier de tout ce que j'ai réalisé. Puis aujourd'hui, je sors de ce sport-là. Je prends ma retraite avec la tête très haut.
Avec fier, raison.
Oui. Très fier de tout ce que j'ai réalisé.
Absolument. Est-ce que le combat contre Jean-Pascal est marquant dans votre carrière?
Oui, c'est un combat marquant, bien sûr. J'ai accepté de monter. C'était pas ma catégorie de poids. C'est moi qui a accepté de monter à 175 livres. C'était un combat, tout un combat. Puis c'est lui qui a gagné. Puis je le félicite encore une fois.
Est-ce que la boxe au Québec va bien?
Malheureusement, non. En ce moment-là, il n'y a personne que les gens au Québec, ça peut identifier. Malheureusement.
Pourquoi, selon vous?
Je ne sais pas exactement. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais comme je regarde, il n'y a pas aucun boxeur qui peut vendre des billets. Il n'y a aucun boxeur qui peut remplir le Centre Bell. puis je sais pas pourquoi. Ça va prendre du temps pour que le Québec trouve un boxeur à s'identifier. Appelez-moi.
OK. Nous, à Québec, les gens, évidemment, vous ont aimé, autant qu'à Montréal. Est-ce que c'était vous avez senti l'amour des gens de Québec à votre endroit également?
Ah oui, beaucoup, beaucoup. C'est aussi que vous m'avez demandé tantôt, c'est laquelle était le plus beau moment.
Oui.
Oui, quand je suis devenu champion du monde, oui, c'est vrai. Mais j'ai eu des moments inoubliables à Québec. Même le deuxième combat avec Andrade.
Oui.
C'est des moments exceptionnels que j'ai passé au Québec. C'est extraordinaire qu'est-ce que j'ai vécu là-bas.
Lucien, vous avez 39 ans maintenant. Vous allez faire quoi dans votre vie?
Écoute, je vais continuer d'apporter mon expertise, mon expérience dans le monde du sport, mais dans une autre manière. Je peux être comme un organisateur d'événements, je peux être comme un agent de boxeur pour que les jeunes boxeurs puissent grandir, pour performer. J'ai plusieurs opportunités, puis exactement, j'ai pris ma retraite, je passe du temps avec ma famille, avec mes enfants. En ce moment-là, j'ai 39 ans, j'ai toute ma vie devant moi.
Est-ce que, absolument. Est-ce que, tantôt vous avez dit, j'ai pas annoncé ma retraite depuis le mois de décembre parce que Adonis Stevenson, évidemment, s'est blessé puis a été plongé dans un coma. Est-ce que cet accident-là vous a fait réfléchir et a confirmé que vous n'alliez pas remonter dans le ring?
Mais ça arrive, c'était tout un accident. C'est pas la première fois quand arrive un accident comme ça. Puis je pense que ça va être pas la dernière fois. C'est un accident que nous, les boxeurs, on s'assume le moment qu'on monte sur le ring. Je suis vraiment déçu. Puis, qu'est-ce que ça lui est arrivé? J'espère qu'il va sortir de ces situations difficiles-là, qu'il va redevenir comme avant. Mais c'est pas nécessairement cet accident qui a lui arrivé. Ça m'a fait prendre la décision. Ma décision était prise avant.
Parfait. Un gros merci de nous avoir parlé ce soir. C'est très apprécié. Puis bonne continuité au Québec. Vous allez rester au Québec?
Oui, oui, je reste ici au Québec. Ma vie est aussi est là en ce moment-là. Je me suis bien intégré. Je sens l'amour de gens du Québec. J'adore de vivre ici. Pour le moment, j'ai décidé de rester avec mes enfants, avec ma famille ici au Québec.
Bravo pour la qualité de votre français. Puis bonne continuité.
Merci, c'est gentil, merci.
Merci à vous. Lucian Buté, ancien champion du monde, évidemment, qui annonce sa retraite aujourd'hui. 39 ans, c'est un Roumain, évidemment, d'origine. 32 victoires, 5 défaites, dont 25 KO en carrière dans la boxe professionnelle.
IBF Super Middleweight Champion du monde.
Le bon réflexe. Jusqu'à 19h. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Bienvenue chez Capital Nissan.
C'est l'événement Mon Choix chez Capital Nissan. Le Rogue S est en location 24 mois à 69 $ par semaine. Tous les détails sur place.
Les meilleures offres à la meilleure place. C'est Capital Nissan. Angle Pierre Bertrand et de la Capitale.
Au parmesan, tout est spécial. Le célèbre jambon de Parme vieilli 3 ans. Le saumon fumé. Sans oublier le vinaigre balsamique traditionnel, toujours préparé par Luigi lui-même. Et également plusieurs exclusivités concoctées par notre chef Bernard. Vous apprécierez aussi l'ambiance créée par nos accordéonistes. Depuis des décennies, vos hôtes Luigi et César et leur équipe sont là pour vous faire vivre tous les soirs. Comme le dit Luigi,
c'est la Dolce Vita.
Pour tous vos examens de radiologie, Clinix, un seul nom, 3 localisations, La Cité, Le Ménil et à Val-Bélair.
Clinix, des experts, un groupe, une force.
Une équipe dévouée. Mylène, Geneviève, Bernard, Daniel, Valérie, Caroline, Vincent, Samy, Johan, René, Isabelle.
Pour vos examens de radiologie, Clinix, près de chez vous, pour vous.
Parce que votre santé nous tient à cœur.
653-9933.
ClinixImagerie.com.
Grande nouvelle, Kia Lévis vient de recevoir le prix du meilleur concessionnaire Kia au Canada. Et pour célébrer les 20 ans de Kia au Québec, le Sorento Elix TA 2019 vous est maintenant offert à seulement 27 995 $. Obtenez également un boni célébration additionnel de 1000 $ sur nos modèles les plus populaires, en plus de nos offres en cours. Pourquoi acheter votre Kia ailleurs que chez le meilleur? Nouveau Kia
Lévis. Mon amour, pourquoi ta valise est dans l'entrée?
J'ai ma soirée Kinzo.
Ta soirée avec Enzo?
Kinzo, c'est la promotion Kinzo à l'aventure.
T'as une aventure?
Kinzo à l'aventure. Il y a 3 crédits voyage de 10 000 $ à gagner.
Ah, OK. Est-ce que je fais ma valise?
Pas besoin. Je pars avec Enzo. Oh.
Du 1er au 24 mars, participez à la promotion Kinzo à l'aventure et courez la chance de gagner l'un des 3 crédits voyage d'une valeur de 10 000 $ chacun. Des conditions s'appliquent. Tous les détails sur kinzo.ca, 18 ans et plus.
Vous voulez un gym? OK. Vous voulez une piscine ou un spa? On l'a. Vous voulez être près des services ou de la nature? Pas de problème. À Sainte-Foy, Beauport ou Le Bourgneuf? Oui, c'est possible. Aux immeubles Roussin, nous avons le condo locatif qu'il vous faut. Et en plus, ils sont en promotion. Détails aux immeublesroussin.com.
Avec Laurier Duvallon, voyagez pour l'expérience, la découverte, le plaisir. En famille, en couple ou entre amis, l'Europe vous attend. Avec Voyage Laurier Duvallon.
Autocollection à Vanier, Sainte-Foy Ford ou l'Ange Gardien Ford. Profitez de notre pouvoir d'achat pour le meilleur prix et faites votre choix dans le plus gros inventaire Ford au Québec. Louez le F-150 XLT Crew Cab 2019 pour seulement 255 $ aux deux semaines. Pas de comptant, rabais de 4000 $ inclus. Détails de cette offre sur place. À Québec, un Ford, ça se
prend chez Desjardins Ford. Du 6 au 20 avril, sous la thématique Québec exquis découvre les vins du Val-de-Loire, vous pourrez manger, cuisiner, déguster, sortir, découvrir et dormir durant le plus important festival gourmand. Programmation et menu au québecexquis.com.
Un ami m'appelle pour dîner? On va à l'atelier. J'ai quelque chose à fêter? Je vais à l'atelier. C'est pas compliqué, je suis toujours rendu à l'atelier. Vous faites quoi mercredi? Moi, je profite du jazz et huîtres de l'atelier. Dès 17h, on s'installe bien confortablement. C'est ambiance trio jazz et on profite des fameuses huîtres de l'atelier à 1$. C'est tellement parfait. Vous comprenez pourquoi je suis toujours rendu à l'atelier. Le Bistrot L'Atelier sur Grande Allée.
La cuisine de vos rêves pourrait vous faire gagner le voyage de vos rêves.
Grâce à Orléans Cuisine Design.
Allez visiter la salle de montre d'Orléans Cuisine Design, faites-le plein d'idées et créez avec l'aide de leurs designers la cuisine de vos rêves. Du même coup, en plus de vous ajouter aux 10 000 clients déjà satisfaits par Orléans Cuisine Design,
vous devenez finaliste pour remporter un crédit voyage de 3 000 $
Pour la cuisine et la salle de bain de vos rêves, Orléans Cuisine Design. Visitez armoireorléans.com. Desjardins Subaru.
Et un prix génial à la location de la toute nouvelle Impreza 2019 version 5 portes, la plus éco-énergétique sur le marché, à partir de seulement 65 $ par semaine, bail de 48 mois, pas d'acompte exigé. 65 $ par semaine, vraiment du génie jusqu'au prix. Offre d'une durée limitée, détails sur place. Desjardins Subaru par la sortie Pierre Bertrand à Vanier. Subaru, confiance et évolution. Desjardins Subaru, on y
met du génie. Le sport commence par l'avant-match avec Dan Pou en semaine 18h.
FM 93.
Welcome to the NCAA Men's Basketball Championship Selection Show. Just a short while ago, the selection committee finished up this year's tournament brackets. 32 teams received an automatic bid, 36 await an at-large. Joining me now to help us reveal the 68-team field.
OK, ce que vous venez d'entendre, bien, c'était l'ouverture de l'émission spéciale de dimanche dernier concernant cette folie du basketball universitaire qui, dès demain, va frapper les États-Unis, ce qu'on appelle le March Madness. 64 équipes vont rivaliser en route vers le championnat qui sera présenté le 8 avril prochain, un lundi, à Minneapolis, au Minnesota. On va parler avec un expert basketball. On joint le journaliste à Québec Hebdo, Jean Carrier, qui est au téléphone. Salut, Jean.
Salut, ça va bien?
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Écoute, enthousiasme comme à chaque mois de mars, Dan.
Oui, non, toi, je sais que c'est la folie qui s'empare pas juste des États-Unis, qui s'empare de ton quotidien aussi pour les prochains jours. Dans quelle mesure le public peut s'attendre à de grandes performances cette année où tu es capable d'identifier déjà 4, 5, peut-être 6 équipes qui vont sortir du lot?
Ben c'est toujours la question qui est difficile parce que Il y a tellement de bonnes équipes. Il y a une super parité aux États-Unis. Et je te dirais, à travers ça, ben c'est laquelle cette saison qui va y aller? C'est ça, là, toujours la question. Par contre, je pense que cette année, on peut dire que Doak est un incontournable. À peu près tous les experts les ont au minimum au Final Four. C'est toujours possible dans leur cas que dans la conférence de l'Est ou dans le bracket de l'Est, c'est pas peut-être possible que Michigan State les batte, mais j'en doute honnêtement cette saison. Ils ont un club qui est pacté, tout simplement, Dan. C'est extraordinaire. Puis ils donnent un bon show. Tu vas voir dans la même équipe à l'Université Duke, le numéro 1 et probablement le numéro 2 qui vont être repêchés au prochain encamp de la NBA. Je parle de R.J. Barrett et comme numéro 1, Zion Williamson.
OK, les deux joueurs de la même équipe qui sont repêchés 1 et 2 dans le repêchage de la NBA, on n'a pas dû voir ça souvent dans les dernières années?
Non, ça va être... écoute, j'ai pas. C'est une très bonne question. Je n'ai pas fait le décompte, là, mais j'ai pas vu ça souvent, mais effectivement.
C'était pas une question au piège, là?
Non, il n'y a pas de trouble, mais ça fait... Écoute, faudrait que je remonte peut-être là, deux joueurs aussi dominants, aussi bons dans la même équipe. Faudrait peut-être remonter peut-être dans les années 80 que l'Université de Houston jouait Clyde Drexler avec Hakeem Olajuwon. C'est peut-être ça qui me vient en tête. Il y a eu des gros duos quand même dans l'histoire de la NCAA, mais celui-là, pour deux joueurs recrues, freshmen, ben honnêtement, c'est exceptionnel. Zion Williamson, c'est peut-être le prochain LeBron James. Au niveau athlétique, il peut se comparer. C'est un gars de 6 pieds 8, très lourd, costaud, 285 livres. Et il saute 40 pouces d'impulsion. C'est honnêtement, c'est un phénomène à voir. Si vous avez un match, ben prenez le temps de regarder l'Université Duke cette saison.
Okay.
Enfin, pas cette saison, dans le March Madness.
Dans le tournoi qui commence demain. Duke, Virginia, North Carolina et Gonzaga sont favoris de chacun leur côté. C'est quatre petites braquettes de 16 qui forment un tournoi de 64. Évidemment, il y a des pôles organisés aux quatre coins de l'Amérique concernant ça. Et j'imagine que tu es dans 3-4 pôles pour le March Madness. Puis,
tout à fait, mais écoute, je suis pas tout seul. Hein. J'ai fait quelques recherches. ESPN est venu à ma rescousse. Dan, c'est 50 millions de personnes à chaque saison qui vont remplir un bracket de la NCAA.
Wow.
Évidemment, ça se fait pendant les heures de bureau.
Ben oui.
Et en moyenne, ils prennent une heure pour le remplir. Donc, c'est des pertes de 1,3 milliard à chaque année pour les industries aux États-Unis.
Ça, ouais, on fait ça ces heures de bureau, c'est bien plus le fun.
Ben oui, écoute, c'est sûr et certain. Écoute, 50 millions, c'est à peu près 20% là, de toutes les personnes qui travaillent aux États-Unis. Donc, c'est quand même un chiffre qui est astronomique.
Qu'est-ce que l'homme d'affaires Warren Buffett promet à la personne qui va être parfaite?
Écoute, c'était 1 milliard de dollars. Puis, ça fait quand même quelques années là, que ce fameux concours-là tient. Et il y a personne qui passe proche. Il a updaté un peu son concours. Maintenant, si tu as le Sweet 16, il va te donner vraiment de l'argent. Puis encore là, personne passe proche.
Okay.
Donc, c'est quelque chose qui... je vais lui donner du crédit parce que c'est intelligent ce qu'il a fait. Lui, ce qu'il fait pour ramasser les données des gens pour ses compagnies à lui. Là.
OK, ça fait une base de données pas pire. Tous ceux qui participent, évidemment, à ce concours-là pour gagner 1 milliard. Dans chaque braquette, dans chaque groupe, il y a 16 équipes. Puis je lisais les statistiques aujourd'hui. Le 14 qui bat le 3 dans tel pourcentage, le 15 qui bat le 2 dans tel pourcentage. Honnêtement, les gens qui ont eu dans les gens qui sont à l'écoute de l'émission ce soir, qui ont eu à faire leur braquette totale de 64 équipes dans les derniers jours, je sais pas dans quelle mesure ils ont tenu compte de ça, parce que les équipes, on les connaît pas vraiment. Il y a un numéro à côté de chaque équipe, mais c'est difficile de prédire le telle équipe 12 qui va battre la cinquième favorite, là.
Ouais, il y a quelques cinglés comme moi qui connaissent à peu près toutes les équipes,
oui.
Mais je te le concède, Dan, c'est pas toutes les équipes que c'est normal de pas toutes les connaître. Ce que je peux dire, c'est dans ces petits comparatifs-là, une de ceux qui est très, très, je dirais, trompeur, c'est quand ton favori numéro 5 affronte le 12.
Oui.
Dans les 5 dernières années, le 12 a gagné plus souvent que le 5.
Oh, ça, c'est intéressant. Moi, je suis un gars de stats, ça, j'aime ça.
Ça, c'est quand même intéressant. Et même à vie, tu sais, le 12, je pense qu'il y a juste 62% de réussite à vie. C'est quand même pas beaucoup, là, pour évidemment. Là, Je parle du favori numéro 5 a 60% de réussite sur le dos. C'est pas, en tout cas, c'est pas astronomique du tout. C'est juste arrivé une fois que le numéro 16 a battu en 1. Puis c'est arrivé étrangement l'an dernier. C'est arrivé à l'Université Virginia. Écoute, si cette saison ça se reproduit, honnêtement, je voudrais pas être dans les chaussures de l'entraîneur-chef là, des Cavaliers de Virginia.
OK. Jean, tu suis ça depuis plus longtemps que moi, mais il me semble que depuis que je m'intéresse au March Madness, ça fait peut-être une dizaine d'années, j'ai l'impression que l'Université Gonzaga, au départ, c'était une université négligée. Et là, 10 ans plus tard, c'est l'une des favorites pour se rendre très loin. Il y a eu, j'imagine, émergence impressionnante pour cette université-là.
C'est une très bonne observation. C'est vrai qu'ils sont passés de underdog, un petit peu négligé, à tranquillement favori. Donc, ils ont réussi à changer, avec les résultats au March Madness, à changer un peu leur recrutement, avoir plus de notoriété, parce qu'ils faisaient bien dans les années précédentes au March Madness. Il y a eu des recrues de plus grande qualité qui se sont joints au programme. Et là, tranquillement, ils sont devenus une des puissances de la NCAA. Et maintenant, ils sont rankés numéro 1 cette saison. Il y a 10 ans, ça aurait été absolument impossible de concevoir ça. Donc, ça prouve aussi que c'est possible. Il y a certaines universités que c'est des powerhouses. Duke, Kentucky, ils vont être là à chaque année. Michigan State, il y en a quand même plein. Mais ça reste que c'est possible pour une université de changer son destin.
Est-ce qu'il y a des Québécois dans le tournoi?
Oui, il y en a 3. Le plus important, mais ils sont tous importants, mais le plus connu, c'est Lou Gwenzdor. Il joue ce soir, parce que tu as parlé qu'il y avait 64 équipes.
Oui.
Mais maintenant, depuis 3 ans, il y a des équipes qui jouent avant. Donc, maintenant, c'est 8 équipes qui jouent un match. C'est comme un match suicide.
Okay.
Donc, officiellement, le tournoi a commencé hier. Et il joue ce soir, Lou Gwenzdor. Lui, il joue pour l'Université Arizona State.
Okay.
Ils vont jouer contre l'Université Saint John. Ça risque d'être un très, très bon match. Donc, le gagnant va être le numéro 11 dans la section de l'Ouest. Donc, ça va être un match, honnêtement, à surveiller. Dans le cas de Lou Gwenz, honnêtement, il va être repêché cette année dans la NBA. Écoute, les experts prévoient là, fin première ronde, début deuxième. Moi, dans son cas, je pense vraiment que ça va être un choix de première ronde.
Okay.
C'est un gars qui est très, très athlétique. Puis quand tu le regardes, honnêtement, il a l'air d'un homme parmi des enfants. Là. On dirait qu'il est fait dans du rock. C'est un gars qui est très mature physiquement.
Jean,
donc, ça va être à surveiller.
OK, parfait. Est-ce que tu as déjà assisté à un événement du March Madness?
Oui, je suis allé il y a quelques années. Il était à l'université UConn. Okay. Je suis allé voir des matchs. Là,
Connecticut, OK.
C'est des matchs de première ronde.
Oui.
Puis j'ai vu aussi au Elite Eight, donc quand ils sont rendus à 8 équipes,
oui.
J'ai vu un match à Boston aussi dans le temps, c'était Villanova qui jouait dans ce temps-là. Donc il y a beaucoup d'ambiance. Souvent, ce qui est le fun, surtout dans les premières rondes, quand t'es dans la foule, honnêtement, c'est toujours le négligé que la foule prend parce que ça reste que t'as une partie de la foule qui est partisane pour les deux universités, mais t'as beaucoup de la foule qui est neutre et la foule qui est neutre se range toujours du côté du négligé, puis ça fait en sorte qu'évidemment, ça crée beaucoup de surprises, crée de l'émotion.
Ouais.
Donc, tout ce qui est le fun du basket rentre dans ce tournoi-là.
Un gros merci, Jean. Bonne soirée à toi.
Merci.
Jean Carrier, expert basket pour le March Madness qui débute demain. C'est tout pour l'émission L'avant-match de ce soir. Je vous rappelle d'aller vous inscrire sur fm93.com pour jouer avec nous le 14 avril au Centre Vidéotron. Je vous dis bonsoir. Merci. Le Canadien a bien joué hier. Mais vous savez, des fois, on analyse un match de hockey puis on dit « Ouais, ils ont bien joué, mais l'autre équipe a mal joué » ou « Pourquoi ça s'est terminé de cette façon-là? » C'est un mélange des deux. Mais hier, au-delà de la belle performance du Canadien, je note aussi le match catastrophique des Flyers.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM93. Ça me parle. L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique en ligne à pièces